Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. J'adore Noël, et encore plus depuis que tant d'enfants sont nés dans notre grande famille. Nos amis de la marque Morphée nous soutiennent ce mois-ci et offrent à tous nos auditeurs une réduction sur la box qui révolutionne le sommeil des enfants. C'est mon petit Morphée. Je l'ai offert autour de moi et les retours sont unanimes. La box Mon Petit Morphée, 100% déconnectée sans ondes ni écran, se prend en main de manière autonome par les enfants. Les plus de 190 histoires apaisantes et musique douce sont adorées par les enfants et leur permettent de retrouver le calme au moment du coucher et de s'endormir facilement. Elle est à destination des enfants de 3 à 10 ans et comme tout ce que fait Morphée, elle est très jolie pour apporter de la douceur dans la chambre des enfants. Morphée vous offre donc le code promo DEMAIN10, demain tout en majuscule avec le chiffre 10. Et pour la commander, rendez-vous sur le site www.morphée.co. À très vite. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Pour la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un jouet, d'un matériel, comme on veut, qui pour moi est très important pour les enfants et est pas très compliqué à mettre en place. On n'a pas besoin de faire 50 000 formations, de le trouver n'importe où. Ce sont les encastrements et les puzzles ou encore les emboîtements. Donc ce sont des jouets, des jeux avec lesquels l'enfant peut travailler, peut s'occuper dès l'âge de 8 ou 10 mois. Le premier encastrement dont on peut parler, c'est ce qu'on appelle le cylindre unique. Donc ça, c'est un matériel qui a été créé spécialement, qu'on a créé spécialement avec Joël Philippin pour sa boutique Art Montessori, parce que je trouvais que cela manquait à l'enfant d'avoir un premier matériel d'emboîtement, parce que vous verrez plus tard qu'en Montessori, On a ce qu'on appelle les emboîtements cylindriques, qui sont du matériel où il y a 10 cylindres à emboîter dans un socle, et il y a 4 socles différents avec des progressions différentes. Mais pour moi, il manquait le premier exercice pour que l'enfant s'entraîne, c'est le cylindre unique. Donc le cylindre unique que l'enfant encastre dans un socle qu'il pose devant lui, qu'il peut encastrer devant lui, et pour qu'il s'entraîne à faire ce genre d'activité. Donc on peut commencer par ça, puis après petit à petit, ben vous verrez, on a les encastrements sous forme de disque, sous forme de forme géométrique, avec un bouton de préhension qui est assez large. Donc le bouton de préhension, c'est important, très important qu'il soit large, comme pour le cylindre unique, parce que sa petite main n'est pas encore très très habile, et donc il faut qu'il puisse le tenir le plus correctement possible. En plus, le fait de tenir ce bouton de préhension va lui permettre de développer beaucoup ses trois doigts, et ces trois doigts qui vont servir plus tard à tenir le crayon et donc à écrire. Donc c'est important d'affiner, de muscler, de rendre ces trois doigts le plus souple et le plus malléable possible pour qu'après l'écriture soit quelque chose de facile pour eux. Vous savez, comme je vous le dis toujours, le matériel Montessori, mais tout autre matériel aussi, doit avoir des objectifs directs et des objectifs indirects. Donc l'objectif indirect du matériel, des puzzles, des emboîtements cylindriques, des encastrements, etc., c'est l'écriture pour la tenue du crayon, ou aussi pour la tenue d'autres objets, du pinceau, etc., etc. Donc peu à peu, l'enfant va pouvoir s'exercer sur des encastrements de plus en plus complexes jusqu'au premier puzzle vers l'âge de 18 mois et 2 ans. Donc ce sont des activités, moi, que j'aime beaucoup, que l'on peut mettre en place sur l'étagère de l'enfant, donc en les mettant pas n'importe comment, hein, c'est important de bien les poser les uns à côté des autres pour les puzzles uniques dont on va parler après. Donc il faut bien les poser à plat, si possible. On peut les poser dans un petit plateau, comme ça l'enfant prend son petit plateau et s'installe sur une table ou s'installe quelque part pour le faire. Évidemment, si l'enfant ne marche pas encore, s'il est assis, vous posez le petit puzzle devant lui, puisqu'il peut commencer vers 8-10 mois. Donc c'est une activité qui est très calme, qui est très valorisante, et l'enfant éprouve beaucoup de plaisir à faire, à défaire, à refaire de nombreuses fois avec le même agencement, et souvent ils finissent même par le poser directement par cœur. Et quelle joie d'arriver à faire son activité par soi-même et à réussir. Il s'exerce en général à les réaliser de plus en plus rapidement, sans hésiter sur le choix des pièces, leur orientation, le positionnement de chaque élément dans l'ensemble. Donc la satisfaction d'avoir réalisé l'activité est encore plus grande parce qu'ils peuvent mesurer eux-mêmes leur réussite. Donc c'est vraiment une activité qui est très bonne aussi pour la concentration, pour le développement du sens visuel, parce que ça pousse l'enfant à vraiment bien observer la forme, comment il la met, comment il la place, etc. Et puis plus tard, pour les puzzles plus durs, quand il va les refaire, ça lui permet de développer sa mémoire, parce qu'en général, il se souvient de l'endroit où se trouvent les pièces, où il se souvient aussi du dessin que cela doit former. Donc c'est excellent aussi pour la mémorisation. Donc c'est vraiment une activité que je trouve très intéressante. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler. Donc comme je vous ai dit, ça développe beaucoup la motricité fine, puisqu'il va attraper le bouton de préhension, et plus tard c'est la précision de ses gestes qui sera importante pour saisir les pièces, les tourner, les encastrer les unes avec les autres dans le plateau. Donc cette activité doit respecter une hiérarchie dans la présentation, parce que justement il faut aller toujours du plus facile au plus difficile pour ne pas mettre l'enfant en échec, mais toujours lui demander un certain effort. Donc ça développe aussi bien sûr les connaissances sur les formes, sur les tailles, sur les couleurs. Ça permet de stimuler aussi, comme je vous disais, les capacités de concentration, d'observation, de réflexion, de raisonnement, par la mise en relation d'indices pour reconstruire un ensemble. Pour les plus jeunes, les puzzles, ça illustre souvent un thème simple, par exemple les animaux, les fruits, les véhicules. Et du coup, on peut les introduire à chaque fois, vous savez, avec ma fameuse théorie sur le fait d'étudier des thèmes petit à petit avec les enfants, hein. J'avais fait une pause éducative sur les paniers à trésors, parce que c'était aussi faire des paniers pour les enfants, pour les bébés dans le nid d'eau en fonction de thèmes. Et puis après, chaque fois, étudier sur un mois, sur deux semaines, sur une semaine, des thèmes différents avec vos enfants, hein, même à la maison et en classe encore plus. Donc on peut à chaque fois les illustrer par un un puzzle, hein, des puzzles sur les animaux, sur les fruits, sur les véhicules. Et puis, quand l'enfant va grandir, on peut aussi introduire des scènes plus complexes, comme un paysage, une scène de la vie, un épisode d'un conte, une histoire. Donc, ce sont des objets qui illustrent énormément de choses, donc qui peuvent énormément être introduits dans la vie de l'enfant. Ensuite, le nombre de pièces, la taille, l'épaisseur, la forme permettent aussi vraiment de progresser, comme je vous l'ai dit, pas à pas. Enfin, les puzzles et les encastrements vont aussi être d'excellents supports pour travailler le langage. Hein. On va donner le nom des animaux, le nom des fruits, mais aussi le nom des formes géométriques, leurs couleurs. Et puis plus tard, ça va développer le vocabulaire parce qu'on va pouvoir leur demander ensemble faire décrire la scène, décrire le paysage du puzzle, qu'est-ce que fait l'animal, qu'est-ce que font les gens. Donc c'est l'objet aussi de description orale qui va permettre à l'enfant de bien mettre en place ses idées et puis d'ajouter des adjectifs, d'avoir un langage plus riche, etc. Donc ce qui est très important aussi quand vous allez présenter les premiers encastrements à un bébé, c'est de lui montrer ce qu'il faut faire. Hein. Il faut toujours montrer, donc très doucement et sans parler surtout, hein, puisque l'enfant, comme je vous avais dit, très petit, ne peut pas se concentrer sur vos paroles et sur vos gestes. Donc, lui dire toujours de bien regarder les mains, ne pas trop parler, montrer les choses doucement, par exemple pour le cylindre unique ou pour les puzzles de forme unique, montrer comment vous prenez avec la pince des trois doigts, comment vous attrapez le bouton, comment vous retirez l'objet tout doucement de son emplacement, vous le posez à côté du puzzle, à côté de la forme, à côté du bloc, vous marquez un temps de pause, puis vous reprenez la pièce et la remettez dans son encastrement. Hein, et ça, vous pouvez le montrer plusieurs fois, pas au même moment, hein, parce qu'ils ont un peu envie, souvent ils ont envie de faire, hein, mais quand vous lui proposez, vous restez bien à côté de lui, vous êtes bien au calme, et vous lui montrez doucement, et ensuite vous le laissez faire. Donc, comme je vous disais, il y a un ordre de présentation pour ces puzzles. Donc, en général, si vous l'avez, bien sûr, vous pouvez commencer par l'encastrement unique. Donc, je vous disais que vous trouvez sur la boutique Art Montessori. Donc, il n'y a que Joël qui fait ce matériel-là. Hein. Donc, c'est Art Montessori, A-R-T Montessori. C'est le site de sa boutique. Et ensuite, vous allez pouvoir leur présenter des puzzles de forme unique avec un gros bouton de présentation, hein, un large bouton de préhension. Donc, ce sont des formes uniques. Donc, il y a le disque large, le disque petit, le carré et le triangle. Donc là, c'est pareil, il faut que vous les mettiez dans un certain ordre. Le disque large est bien sûr plus facile, puis ensuite le petit disque, ensuite le carré, le triangle, puis le carré. Donc ça, c'est important de respecter l'hiérarchie. Ensuite, vous allez pouvoir introduire des emboîtements cylindriques avec trois cylindres. Et ça, c'est intéressant, vous les trouvez sur la boutique de Montessori Spirit, qui fait le matériel hollandais du fameux fabricant de matériel qui s'appelle Ninuis. Donc, c'est du matériel très cher, donc on n'a pas toujours les moyens de se l'acheter. Donc, ce n'est pas vraiment indispensable, hein, mais si vous avez la possibilité, c'est intéressant d'avoir ces quatre blocs de trois cylindres uniques. Faites attention parce que certains vendeurs de matériel Montessori en font avec 5 cylindres. Moi, je ne les aime pas beaucoup parce que les cylindres sont vraiment trop petits. D'abord, c'est dangereux, ils peuvent les mettre dans la bouche. Et ensuite, ils sont vraiment très petits. Donc ça, je vous les déconseille. Moi, je ferai le cylindre unique, les puzzles de forme unique. Et puis, si vous avez la possibilité, les cylindres de 3. Ou sinon, on va passer au puzzle multidisque. C'est-à-dire que c'est un socle avec trois disques qui vont du plus grand au plus petit. Donc là, c'est plus compliqué, hein, puisque l'enfant doit choisir quel disque pour quelle forme. Ensuite, vous pouvez passer au puzzle multiple, plusieurs formes confondues. C'est-à-dire, c'est un socle, pareil, sur lequel il y a un disque, un triangle et un carré. Comme l'enfant a déjà travaillé sur des formes uniques, vous pouvez passer après à cette difficulté-là. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence, un enfant a le temps de faire tout ça. Ensuite, il existe aussi des puzzles avec plusieurs formes qui n'ont pas de boutons. Ce sont les mêmes formes, mais il n'y a pas de boutons. Donc c'est un socle et dessus, vous avez un disque, un carré, un rectangle, un triangle. Et il n'y a pas de boutons, donc là, c'est plus compliqué. Ensuite, vous pouvez passer aux encastrements qui ont une seule forme et avec un bouton de préhension. Ça, vous en trouvez sur la boutique Tangram Montessori. Hein, je vous conseille souvent cette boutique, j'ai pas d'action, je ne suis pas rémunérée pour ça. Mais il y a des jolies choses et c'est pas trop cher et c'est bien étudié. Donc là, ce sont des encastrements avec une seule pièce. Alors, ça peut être un coq, ça peut être un oiseau, ça peut être une grappe de raisin, ça peut être une salade. Et il y a aussi un bouton. Donc là, évidemment, c'est plus difficile que les formes géométriques parce qu'il faut vraiment ajuster pour que la forme rentre dans son encastrement. Ensuite, vous pourrez passer aux encastrements de plusieurs pièces qui vont du plus grand au plus petit, mais la même forme. Hein, parce que là, ça sera pareil que pour le disque du plus grand au plus petit. Là, vous allez voir, il existe des vaches, il existe des chats, il existe des chiens. Donc, c'est bien de rester sur une seule forme au départ. Hein, c'est toujours le principe de une seule difficulté à la fois. Donc vous mettez, c'est la même forme, mais qui est du plus grand au plus petit. Donc comme l'enfant sait poser sa forme, après il faut juste qu'il ajuste, qu'il trouve la bonne taille pour le bon emplacement. Ensuite, vous pourrez introduire des encastrements de trois pièces, mais avec des formes différentes. Hein, donc souvent, c'est les animaux, et il y a encore le bouton de préhension. Parce que comme ça, l'enfant le saisit toujours bien. C'est très important que vous regardiez comment il tient le bouton, hein, pas n'importe comment, comme il tiendrait un crayon. Hein. C'est très important, puisque je vous ai dit, vous travaillez vraiment aussi cet objectif-là. Ensuite, vous allez pouvoir passer au puzzle de forme unique, avec bouton de préhension, mais plusieurs pièces pour le constituer. Hein, c'est pareil, là, il en existe, ça peut être des fruits, ça peut être des animaux, souvent c'est des animaux qu'ils aiment bien, mais des fruits c'est bien aussi puisqu'ils les voient tous les jours et ça vous permet de développer le vocabulaire. Donc ça c'est important, ce sont des puzzles avec plusieurs pièces, avec des boutons pour chaque pièce. Donc là il faut commencer par un puzzle avec deux pièces, hein, puis après avec trois pièces, quatre pièces, cinq pièces, etc. Toujours progressif. Puis après vous allez passer au même genre de puzzle, mais avec sans boutons. Là, c'est plus difficile, il faut vraiment ajuster la pièce et c'est plus compliqué. Donc ça, vous avez aussi, il existe des locomotives, des poissons, des chevaux, des lapins, etc. Et pareil, vous commencez par deux pièces, sans bouton, puis trois, puis quatre, puis cinq, quand vous avez votre enfant qui est en réussite. Ensuite, il existe aussi les fameux emboîtements solides dont je vous parlais, où il y a 10 cylindres. Donc là, il existe 4 socles hein, avec 10 cylindres parce qu'ils progressent de façon différente. Parfois, ça va être la hauteur et le diamètre. Parfois, ça va être l'épaisseur. Et c'est important de présenter ce matériel-là aux enfants parce que ça développe vraiment le sens visuel. On peut le faire aussi avec les yeux bandés et du coup, ça va développer le sens du toucher. Et ça, c'est un matériel qui est vraiment très intéressant. On peut les faire, l'enfant doit commencer par les faire isolément, c'est-à-dire d'abord un socle, puis après le deuxième, puis après le troisième, puis après le quatrième. Et ensuite, vous pouvez les faire travailler avec plusieurs socles en même temps. Et on peut aussi en faire un jeu en famille où on bande les yeux, on met tous les cylindres au centre et en touchant, les enfants doivent retrouver le bon emplacement. Nous, on le fait en formation avec Apprendre Montessori hein, dans les sessions de formation Montessori que l'on propose avec 4 socles que l'on met comme un rectangle. J'ai publié souvent des photos là-dessus, comme un carré, pardon, puisqu'ils ont la même taille. On met tous les cylindres au centre et puis on bande les yeux, 4 personnes ou 3 personnes ont les yeux bandés et essayent de trouver le bon cylindre. Et c'est vraiment très intéressant pour développer le toucher. Les enfants aiment beaucoup ça. On peut le faire aussi en classe. C'est très intéressant. Ensuite, on peut faire aussi de manière pour faire travailler la mémoire, c'est-à-dire que vous prenez un socle, vous vous mettez à un bout de la pièce, vous sortez toutes les pièces, tous les cylindres à l'autre bout de la pièce sur une table, vous partez à l'autre bout de la pièce, comme je vous disais, avec le socle, et vous dites à l'enfant, va me chercher tel cylindre. Donc évidemment, vous commencez en général par le plus grand, par le plus petit. Et l'enfant doit aller chercher le bon socle et le bon cylindre et le poser dans son bon emplacement. Du coup, l'enfant doit bien observer ce que vous voulez, s'en souvenir pendant tout le chemin, trouver un moyen de raisonnement pour trouver la bonne forme, la bonne taille, la bonne dimension et trouver le bon cylindre et le rapporter. Et ça, c'est excellent aussi. Et après, les enfants peuvent le faire ensemble, vous n'avez plus besoin d'intervenir. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un matériel que je vous conseille vraiment. Maintenant, il a des prix abordables, pareil, sur Tangram Montessori ou encore sur Montessori Store. J'aime beaucoup aussi Montessori Store. Et donc là, vous l'en trouvez à de bons moyens. Et plutôt que d'acheter des jouets en plastique, je vous conseille vraiment, même pour Noël, de demander ce genre de cadeau parce que ça sert pendant très, très longtemps. Et c'est très intéressant. Ensuite, en Montessori, nous avons les puzzles Montessori, les puzzles de botanique et les puzzles de zoologie. Donc ça, ce sont des puzzles, donc il y a la fleur, la feuille, l'arbre, il existe aussi maintenant la racine, les parties de la graine. Donc ce sont des puzzles de plusieurs pièces qui mettent en valeur chaque partie. Et puis, il existe aussi en zoologie, donc les animaux. Donc je vous conseille de les présenter dans l'ordre que je vais vous dire, qui correspond à l'ordre d'apparition des êtres vivants sur la Terre. Donc il y a d'abord le poisson. Ensuite, vous devez faire la grenouille. Ensuite, vous devez faire la tortue, donc les reptiles. Ensuite, vous devez faire le mammifère. Donc, en général, c'est le cheval. Et puis après, vous pouvez présenter aussi l'oiseau. Donc, ça, c'est très intéressant. Et il y a plusieurs étapes pour présenter ces puzzles. D'abord, parce que ça, c'est des puzzles qui sont assez difficiles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous créez une carte de contrôle. C'est-à-dire que vous traciez sur une feuille à côté, une feuille un peu épaisse, hein, en canson, ou alors après, vous plastifiez. Vous reconstituez le puzzle sur cette pièce, parce que la première étape pour l'enfant, ce sera de poser les pièces sur le dessin que vous avez fait. C'est un guide et c'est une première façon de le faire qui rend les choses moins difficiles. Donc vous dessinez, c'est ce qu'on appelle nous la carte de contrôle, il pose chaque pièce sur le même emplacement et après il refait la manipulation dans l'autre sens. Et ça permet de faire une étape qui rend le puzzle plus possible, plus facile à faire. Donc ça, ils peuvent le faire à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Ça dépend vraiment des enfants et surtout pas s'inquiéter si c'est plus tard. Donc avec ça, après, on en prend 3 et par une leçon en 3 temps que j'ai déjà expliqué dans une pause éducative, vous pouvez enseigner les différentes parties de la fleur, les différentes parties de l'arbre, les différentes parties de la tortue, etc. Donc vous vous souvenez, la leçon en 3 temps, hein, faut réécouter la pause éducative, hein, 3 morceaux par 3 morceaux. Ensuite, vous pouvez leur proposer de prendre les empreintes, c'est-à-dire de prendre chaque morceau et de reconstituer le puzzle dans un plateau de sable, par exemple. Ça, c'est très joli. Ils appuient la forme sur le plateau de sable et ils reconstituent la forme. On peut le faire aussi avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel. C'est très joli aussi. Ensuite, vous pouvez leur proposer de travailler avec les cartes de nomenclature. Pareil, j'ai fait une pause éducative sur les cartes de nomenclature. Donc ça, vous pouvez les télécharger sur Internet. Hein. Vous faites carte de nomenclature de la fleur Montessori. Et puis, ensuite, quand ils auront travaillé bien avec les cartes, vous pouvez leur proposer de faire un petit livret de la fleur, un petit livret de l'arbre. Alors, souvenez-vous, c'est une feuille pour une partie. Hein, donc ils prennent une feuille, ils colorient par exemple la corolle et en rouge et ils écrivent corolle. Une autre feuille, ils colorient les étamines, ils écrivent étamine. Une autre feuille, ils colorient les sépales et ils écrivent sépales. Et ensuite, vous prenez l'ensemble, vous leur demandez de faire une jolie couverture en dessinant une jolie fleur. Ils écrivent fleur et vous agrafez. Ça fait un très joli petit livre sur les parties de la fleur. Et vous pouvez le faire sur chaque puzzle. C'est très intéressant. Donc voilà pour les puzzles de botanique et de zoologie. Donc ceux-là aussi, je vous conseille de les avoir parce que ça développe énormément de choses. Puis avant de les présenter, ben, si vous présentez la fleur, ensuite vous pouvez leur présenter plein de fleurs différentes en développant le vocabulaire des fleurs, en allant observer des fleurs, etc. C'est un matériel qui permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passionnantes pour les enfants. Donc ensuite, nous disposons aussi dans nos classes des cartes puzzles de géographie. Donc d'abord la planisphère avec les continents. Donc ça, je vais faire un sujet sur la géographie. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir le planisphère des continents parce que ça permet aux enfants de bien visualiser les continents. Ils ont des couleurs données. Après, ils peuvent retracer les continents sur une grande feuille blanche et les colorier de la bonne couleur, écrire les noms, faire pareil les cartes de nomenclature des continents. Après, travailler sur les animaux des continents, les habitants. J'ai fait aussi une pause éducative là-dessus. Et ça, je vous conseille, c'est vraiment très intéressant. Et après, si vous voulez étudier un continent en particulier, vous pouvez acheter la carte puzzle de chaque continent, petit à petit, bien sûr, hein, puisqu'un continent peut faire l'objet de 3-4 mois d'études. Hein, il y a tellement de choses à apprendre. Alors, faites bien attention sur les cartes puzzle des continents que vous achetez, parce que Maria Montessori avait étudié ça d'une manière géniale, comme tout ce qu'elle a fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le bouton de préhension se retrouve exactement à l'emplacement de la capitale. Le bouton de préhension de chaque pays du continent se trouve à l'emplacement de la capitale du continent. Ce qui fait qu'inconsciemment, en faisant le puzzle, l'enfant, à chaque fois, saisit le bouton à l'emplacement de la capitale. Donc, il retient l'emplacement de la capitale de chaque pays en faisant le puzzle. Alors, je vous dis de faire attention parce que j'ai vu chez certains vendeurs, par exemple chez Nature et Découverte à une époque, le bouton de préhension était au centre de la pièce, comme c'est pour n'importe quel puzzle. Et ça, c'est vraiment grave. Et ça fait partie, j'aime beaucoup Nature et Découverte, hein, mais ça fait partie de ceux qui vendent du matériel sans vraiment savoir ce qu'ils vendent. Hein, donc, faites vraiment attention, regardez bien que le bouton de préhension soit à l'emplacement de la capitale et pas au centre de la pièce. Et donc, ces cartes aussi sont très intéressantes. Donc, c'est aussi sous forme de carte puzzle. Donc, on continue à travailler l'appréhension et on travaille plein d'autres choses aussi. Il existe aussi le cabinet botanique de feuilles. Donc, ça, c'est un cabinet qui est constitué de 3 tiroirs différents avec toutes les formes de feuilles possibles et imaginables qu'on associe en général à des cartes des mêmes feuilles. Et ça, c'est intéressant aussi au moment de l'automne ou du printemps ou de l'été, n'importe quelle saison, d'aller chercher des feuilles dans la nature et ou alors des feuilles des plantes vertes et d'observer à quel type de feuilles elles ressemblent et d'en enseigner le vocabulaire. Bon, c'est un matériel plus spécifique et dont on se sert un peu moins. Dans les classes, c'est bien, mais à la maison, je pense que c'est moins fondamental d'avoir ce cabinet. Par contre, il y a un matériel qu'on trouve dans toutes les classes de maternelle, qui est le cabinet géométrique. Donc, c'est un matériel fait de différents tiroirs avec toutes les formes géométriques qui existent, que l'on associe aussi à des cartes du cabinet géométrique. Faites bien attention, quand vous achetez le cabinet, il n'y a pas les cartes avec, mais les cartes, vous pouvez aussi les télécharger et les faire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pareil, ça permet à l'enfant de connaître tous les noms des formes géométriques en maternelle, ce qui prépare pour l'avenir. Ça permet aux enfants de travailler sur les puzzles, hein, puisqu'ils prennent par le bouton et après ils remettent dans leur forme. Ça permet à l'enfant de développer, par exemple, son sens visuel parce que toutes les formes, les polygones, vous avez les pentagones, les hexagones, les heptagones, les nonagones, les décagones, vous voyez, c'est très difficile, il faut bien observer le nombre, bien observer pour mettre la bonne forme au bon endroit. Donc c'est un matériel qui est vraiment très intéressant et qui va servir ensuite en classe élémentaire pour toutes les différentes formes également, mais pour le calcul des périmètres, pour les différentes lignes qui contient une forme, pour les volumes, pour découvrir qu'est-ce qu'est le nombre pi, etc., etc. Donc, le cabinet géométrique, c'est quelque chose qui est utilisé de 2 ans à 12, 13 ans, hein, qui peut être utilisé. Donc, ça, c'est un matériel qui est vraiment très, très intéressant. On l'associe aussi donc aux cartes du cabinet géométrique. Et vous allez voir, il y a 3 types de cartes, des cartes pleines, des cartes avec un contour épais, des 4 avec un contour fin. Et ça aussi, c'est passionnant de poser la forme sur la carte. Et ça va énormément aussi développer le sens visuel de l'enfant. Si vous faites le même jeu qu'avec les encastrements, c'est-à-dire vous sortez un tiroir, vous en sortez les formes, vous partez avec le tiroir vide à l'autre bout et vous demandez à l'enfant « va me chercher ça, va me chercher ça, va me chercher ça ». Formidable pour la concentration, la mémorisation, le sens de l'observation, le sens visuel. Et puis, c'est un jeu que les enfants aiment beaucoup faire ensemble. Donc, vous pouvez aussi beaucoup développer le sens du toucher en leur faisant, par exemple, bander les yeux et ils encastrent chaque forme juste par le toucher. Et là aussi, c'est vraiment très intéressant pour développer le sens du toucher qui se centre sur leurs mains et se concentre énormément. Donc voilà, ça, c'est tout ce que nous avons en termes d'encastrement, d'emboîtement, de puzzle, etc. Mais pour moi, ça valait la peine d'une longue pause éducative parce que c'est vraiment un matériel très intéressant à mettre entre les mains des enfants. Après, il existe des puzzles de plus de pièces, vous savez bien, en commençant doucement. Et puis, il existe aussi des puzzles magnétiques que maintenant, moi, je mets en place dans les crèches. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui se pose verticalement sur un support. Et après, il y a des pièces magnétiques pour reconstituer. Donc, c'est plus facile que... Elles sont toutes de la même forme, elles sont carrées. Le but, c'est de recomposer l'image. Et ils existent pour les 4 saisons et ils sont vraiment très jolis. Et ça peut aussi donner l'objet de descriptions pour le développement du vocabulaire, pour savoir décrire une image, pour raconter des histoires, etc. Mais c'est vraiment très intéressant. Vraiment, je vous conseille de mettre à disposition des enfants tous ces puzzles depuis très jeunes et jusqu'à 99 ans, puisque ensuite, on peut faire des puzzles de 10 000 pièces. Et c'est aussi une activité familiale qui est passionnante. On peut se mettre tous sur un puzzle ensemble et chacun... un petit peu de temps, va poser quelques pièces et c'est vraiment quelque chose qui peut réunir la famille et qui est vraiment formidable.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.